Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Salutations à tous. Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons nous livrer à une réflexion qui nous met en face de ce que nous sommes, de nos réactions, voire même de nos actions. Et je vous propose que nous fassions notre lecture. Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu, et c'est Jésus qui nous dit ceci, c'est dans le sermon sur la montagne, et voilà ce que nous avons là devant nous. Jésus dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Voilà, nous voulons réfléchir sur différents événements qui nous viennent à nous. Et j'aimerais particulièrement mettre l'accent sur la perspicacité, le discernement des choses, de la manière dont nous voyons les choses, dont nous les percevons, dont nous les comprenons. Perspicacité sur soi-même. Où il en découle nos réactions devant tel ou tel état, telle ou telle situation, événement, qu'il soit collectif ou qu'il soit tout simplement personnel. Et j'ai donné un titre à notre pensée ce matin: quel caractère est le nôtre? En d'autres termes, c'est une question: quelle est la nature finalement de notre tempérament, de nos états intérieurs? Est-ce que véritablement nous réagissons positivement ou négativement? Il y a naturellement des tempéraments, des caractères où tout est noir, tout est sombre, tout est perdu. Et puis il y en a d'autres, ce sont des optimistes, où véritablement ils voient, comme on le dit, la vie du bon côté. Quand tout va bien, ou quand tout va mal, quand ça marche, ou que ça ne marche pas. C'est un message donc que nous allons partager, c'est un message d'encouragement, en prévention contre le pessimisme et la négativité de notre monde, de notre environnement, négativité, pessimisme ambiant. Alors, que se passe-t-il autour de nous? Alors, nous avons là une kyrielle d'informations qui nous viennent par les médias. Nous avons toutes sortes de bruits qui courent. Il y a là des bonnes annonces, il y a aussi des fausses informations. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Nous allons simplement faire un zoom sur les derniers jours. Nous savons que c'est Paul qui écrit les lignes qui suivent. C'est lui qui les a en effet consignées dans ses épîtres. Et nous pouvons faire un état des lieux. Et c'est vrai que nous pouvons découvrir, Paul n'exagère pas. Il nous parle de la réalité de la nature humaine. Alors c'est vrai que en un siècle où chaque décennie a son lot de crises, à travers des scandales, à travers des faits divers graves, des épidémies comme nous en connaissons, la violence ou les violences tragiques, les troubles politiques, sociaux, économiques et bien d'autres choses, qui quelque part, sans que nous nous en apercevions, tout cela tue et s'oppose au bonheur et à la paix des hommes dans le monde. Et nous voyons que Paul nous le rappelle, et je veux simplement le signaler tout à nouveau, parce que je crois que c'est quelque chose qui a son importance. Alors nous avons donc dans cette parole de Paul ceci: sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous constatons à l'évidence. Car les hommes seront, ils ont toujours été, mais ils seront d'abord égoïstes, c'est-à-dire tournés vers eux-mêmes. Amis de l'argent, on le voit et on comprend que toute l'économie qui fait tourner le monde, c'est l'argent. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Ils seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la foi, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, en temps de paix, c'est vrai que ces choses sont contenues, elles sont limitées, elles existent, mais nous voyons que lorsqu'il y a, eh bien là, le désordre, lorsqu'il y a des grands bouleversements mondiaux, eh bien véritablement, l'homme donne libre cours à ce qu'il a au fond du cœur, à la méchanceté, à la cruauté, et puis toutes sortes de choses qui lui ressemblent. Et tout cela, naturellement, eh bien, nous éloigne de ce bonheur voulu par Dieu. Alors, nous pouvons ajouter ceci, et je voudrais donner également un autre passage qui est intéressant, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, et au verset 1 à 6, et c'est véritablement ce texte que nous allons eh bien, lire maintenant. Alors, je rectifie, c'est à partir du verset 6, voilà, il est dit ceci. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit dans ce figuier et je n'en trouve point. Alors coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année et je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir. » Donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alors il y a là naturellement, eh bien, en effet, toutes sortes de choses qui nous parlent. Quand ça ne pousse pas, nous avons l'image d'un schéma de l'agriculture, hein, de la culture de la vigne et d'un figuier, mais ça ne pousse pas, et quelle est notre réaction quand ça ne marche pas? Alors voilà, c'est une chose tout à fait anodine, qui nous est présenté à travers cette petite image, cette parabole de Jésus. Mais comment faire? Il y a là naturellement eh bien, la stérilité qui frappe ce figuier. Dans l'économie naturelle des hommes, eh bien, nous savons que l'un laboure, l'autre plante, un autre arrose, encore un autre récolte. Nous savons que ce n'est pas l'affaire d'un seul, mais c'est l'affaire, c'est une mutualisation des efforts pour un résultat tout à fait eh bien, là, commun. Parfois, rien ne sort de la terre, c'est ce que nous dit Jésus. Soit il y a la fécondité ou la stérilité. Et nous allons regarder rapidement aux protagonistes. D'abord, il y a 2 hommes. Il y a le propriétaire et il y a le métayer. Parlons du propriétaire du champ. Ses droits, parce qu'il est propriétaire, ses attentes, tout à fait légitimes, son impatience qui est signifiée dans cette petite image, ses intérêts de rentabilité, parce que peut-être que cela l'intéresse eh bien, d'avoir un revenu avec, là au milieu de sa vigne, non pas seulement la vigne, mais peut-être qu'il y a plusieurs figuiers, peu importe, son souci de l'occupation du sol, parce que le sol c'est précieux, c'est quelque chose qui a son importance, et nous voyons qu'il nous est simplement rappelé qu'il a planté donc une vigne, et il est venu chercher du fruit à son figuier, mais, constatation, eh bien il ne voit rien. Son attitude se résume ainsi. Donc, il y a là quelque part une réaction tout à fait légitime, et on pourrait parler de négatif, parce que bon, ça va de soi, naturellement. Il y a des doutes, il y a son incrédulité, il se demande si le figuier est bon ou si c'est le sol qui ne produit pas. En d'autres termes, soit il ne croit pas, ou il n'y croit plus. Et ça, c'est important de le signaler. Peut-être pourra-t-il se dire, mais pourquoi j'ai planté ce figuier qui ne produit rien? Ça, c'est sûr qu'il ne le savait pas à l'avance. Parce que peut-être, s'il l'avait su à l'avance, il ne l'aurait pas eh bien, confié à son métayer pour qu'il le mette à cet endroit-là. Et puis, il y a le vigneron métayer, c'est-à-dire l'employé en quelque sorte, qui typifie, eh bien là, le contraire, qui lui, eh bien, va faire la démonstration de sa positivité. Donc, En quelque sorte, il typifie la patience et la persévérance, les deux. Être patient, et il continue à être patient, donc ça s'appelle la persévérance. Parce qu'il dira au maître, laisse-le encore un peu. Voilà, tu constates qu'il n'y a rien, qu'il est infructueux, qu'il est infécond, mais je te prie. Et c'est quand même là l'inférieur qui recommande au supérieur, c'est-à-dire au propriétaire, eh bien un petit peu de patience, dans l'espoir de conserver la vie et envisager comme une grâce, en quelque sorte. Il y a les deux considérations à prendre. Hein, il y a naturellement, eh bien, si ce figuier demeure, alors à ce moment-là, il vivra. Et puis d'un autre côté, le plaidoyer du métayer, c'est véritablement une grâce, une faveur. Et tout cela, eh bien, naturellement, souligne l'espérance que jamais n'est définitivement terminée, que jamais rien n'est fini complètement et totalement. Et ça, c'est véritablement la grande leçon que nous trouvons dans le message biblique, dans le message de l'Évangile, soit à travers l'Ancien Testament et dans toutes les belles histoires qui nous sont rapportées, ou alors particulièrement, eh bien, dans les faits et gestes, dans les paroles, les encouragements que Jésus nous donne, soit à travers les paraboles ou autre chose. Donc, je souligne qu'il s'agit de l'espérance que nous devons conserver à l'intérieur de nous-mêmes, que jamais rien n'est fini tant que Dieu n'a pas mis un terme. Tant qu'en quelque sorte, on pourrait dire, le propriétaire qui juge de tout, qui est celui qui va déterminer les choses, en quelque sorte la vie et la mort de son figuier, et qui est l'image, en quelque sorte, de Dieu. Et nous voyons, peut-être, parce qu'il est dit, mais peut-être, et ça c'est le plaidoyer, peut-être un jour donnera-t-il. Peut-être un jour donnera-t-il. Vous savez que dans une épître, je crois que c'est l'épître de Pierre, hein, il est écrit ceci, que Dieu use de patience envers les hommes afin de leur laisser du temps et qu'ils aient véritablement la possibilité de se repentir de leur faute, de leur péché. Peut-être un jour donnera-t-il. Alors, nous voyons que ce plaidoyer, c'est tout simplement, en quelque sorte, le message de l'Évangile pour chacun et chacune. Il y a là une vision optimiste qu'un changement, une renaissance, un miracle peut se produire quand la toute-puissance divine rencontre l'incapacité de la nature des hommes. Et c'est ça justement. Je pense qu'il y a beaucoup de négativité, beaucoup de déception, beaucoup de désespérance dans notre monde, parce que c'est souvent l'homme qui met le dernier mot, qui met le point final à des situations qui peut-être ne sont pas finies. Et nous le voyons à travers, certaines rencontres de Jésus, confronté avec la mort des autres, avec la fille de Jaïrus, je prends l'exemple, avec tel ou tel autre, ou avec le fils de la veuve de Nain, où là tout le monde pense, parce que tout le monde est devant le décès de ce garçon ou de cette jeune fille, et tout le monde pense que c'est fini. Et tout le monde dit, parce que c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. C'est l'histoire de Lazare, qui était déjà depuis 3 jours dans le tombeau, et qui, quelque part, Jésus, lui, va apporter un démenti flagrant, miraculeux, surnaturel, que l'esprit de l'homme n'est pas en mesure de comprendre, où il dira, mais quand vous dites que c'est fini, moi je dis que tout commence, parce que tout peut repartir. Donc, et il y a là la rencontre de la toute-puissance divine avec l'incapacité de la nature. Et c'est vrai que ça fait partie justement des capacités divines. Le possible encore avec l'impossible de toujours. Nous savons qu'il y a là dans ce serviteur un comportement positif, et ce comportement positif, c'est tout simplement sa foi. Il a foi dans ce qu'il demande au propriétaire, il a foi, lui, dans le propriétaire qui peut répondre d'une manière positive, il a foi probablement dans ce terrain là où est planté ce figuier, et puis, là, c'est quelque chose qu'il va démontrer, et on peut dire qu'il a dans ce tempérament, quelque chose qui se distingue, la foi. Parce qu'il faut aller de l'avant, finalement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en route, beaucoup de gens qui regardent en arrière, beaucoup de gens qui se découragent, mais il faut aller de l'avant. C'est l'apôtre Paul qui nous donne cette parole quand il dit simplement, et je pense que c'est bien de pouvoir nous remémorer, parce que nous traversons tous des épreuves, nous traversons tous des moments difficiles, des moments chaotiques parfois, et il dira ceci, oubliant ce qui est en arrière. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que notre passé, nos souffrances, nos douleurs, tout ce que nous avons vécu, tout ce que d'autres nous ont fait vivre à travers des choses difficiles, eh bien, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. Je crois que nous sommes appelés, nous sommes des êtres où nous avons une histoire, un passé, un présent, mais nous avons aussi un avenir. Il faut croire que cet avenir, il n'est pas entre nos mains. Il est entre les mains de Dieu et Jésus donnera une des plus belles paroles de l'Évangile quand il dira ceci, ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance à Dieu, croyez en moi, parce que vous savez, si vous regardez la nature, vous verrez que nous les hommes, nous avons notre monde, nous avons notre vie, nous avons finalement notre façon d'être. Mais regardez les oiseaux du ciel, personne ne les nourrit. Ils se nourrissent d'eux-mêmes, de ce qu'ils trouvent dans la nature. Regardez les fleurs des champs qui sont magnifiques au printemps. Eh bien, elles fleurissent. Elles sont parées de leur plus beau, de leur plus belle couleur. Et puis, ainsi de suite. Alors, la moralité de tout cela, c'est que nous avons à lutter pour ce qui vaut la peine. Et nous avons aussi, d'un autre côté, lutter d'un côté, mais de savoir aussi réprimer en nous, parce que c'est souvent instinctif, et autour de nous, tout ce qui tend à nous amener à négativiser, à alourdir nos pensées, nos cœurs, nos âmes, à nous empêtrer finalement, là, dans toutes sortes de voies sans issue, et à croire à l'action de Dieu par des raisonnements, par des attitudes, par des paroles ou des états d'esprit, des états d'âme et de cœur, positif. Oui, c'est ce que nous avons besoin. Et peut-être nous avons besoin de demander dans nos prières, crée en moi, Seigneur, un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce que un autre passage nous dit, mais c'est toi qui crée en nous le vouloir être positif, le vouloir voir les choses du bon côté, vouloir voir et de faire ces choses. Selon ton bon plaisir, c'est toi qui les mets au fond de notre cœur. Par contre, il y a le contraire. C'est que nous pouvons, comme je l'ai dit, alourdir notre vie par toutes sortes d'attitudes, un état d'esprit que nous cultivons et qui, véritablement, sont profondément pessimistes, défaitistes ou, sans le vouloir même, sans le savoir, nous décourager dans l'élan de la foi. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit ceci, chapitre 3, verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres. » C'est-à-dire que dans les échanges entre les hommes, il y a des paroles qui sont véritablement assassines. Il y a des paroles, et je n'en cite pas parce qu'on y est tous passés à un moment ou un autre, mais des paroles qui sont véritablement des scuds que l'on envoie alors qu'on ne connaît pas la situation véritablement à fond. Alors on va voir quelqu'un qui est mal pris, et on va lui dire des mots au lieu de lui dire, de lui communiquer, de l'exhorter, des paroles de consolation, des paroles d'encouragement, on va lui dire exactement le contraire, et on va les décourager. Alors il est dit, mais exhortez-vous les uns les autres, et cela chaque jour. C'est-à-dire que si nous sommes capables de le faire chaque jour, c'est que nous sommes imprégnés nous-mêmes en permanence, cette permanence aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oui, parce que vous savez, nous avons et nous constatons que les gens qui ont l'habitude d'être toujours négatifs, toujours se lamenter, toujours à pleurer sur eux-mêmes, ne voyant jamais les beaux côtés, ne voyant jamais la lumière, l'espoir, c'est pour ça que tout à l'heure nous avons pris, mais si votre lumière qui est en vous est ténèbre, mais tout sera ténèbre, il n'y aura que ça, vous ne verrez rien, vous passerez à côté finalement des opportunités et peut-être des pensées géniales que Dieu veut vous donner pour vous en sortir. Alors attention, parce que il y a là un état d'esprit, un tempérament qui va nous endurcir et il y a un tempérament contraire qui va nous enthousiasmer et qui va nous faire croire. Ce n'est pas quelque chose de béat et de naïf, mais c'est quelque chose de réaliste en quelque sorte. Alors, à travers l'incrédulité entretenue, la critique, parce que nous ne savons faire que ça, des murmures, voire des habitudes, tout cela nous tue. Et tout cela peut être aussi un vecteur pour tuer les autres. Alors le propriétaire dira de cette manière, il dira « Mais je suis venu voir dans ma vigne, je suis venu voir mon figuier, j'ai regardé au travers les feuilles, j'ai regardé le plus attentivement possible, mais je n'en trouve pas. » Et il va donner cet ordre, « Eh bien tu le coupes maintenant. » Parce qu'il était le propriétaire, c'est lui qui avait le droit de vie et de mort sur son figuier. Il est infécond, il est stérile, et ben c'est pas la peine qu'il reste là. Je n'en trouve pas, je n'en vois pas. Mais vous savez que il ne les voyait pas, les fruits. Il n'y en avait peut-être pas, forcément. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des choses que nous ne voyons plus. Il y a des choses que nous ne discernons plus, et qui sont près de nous, qui sont beaucoup plus proches que nous le pensons, qui sont beaucoup plus visibles, visibles pour les autres, mais pas pour nous, parce que la lumière qui est en nous, eh bien, elle est ténèbre. Et c'est pour cela, eh bien, il y a en effet cette injonction, mais tu le coupes, ça ne sert à rien. Alors, nous avons parlé de la grâce et de la faveur, et c'est ce que nous allons voir dans le plaidoyer maintenant. Nous avons besoin d'être des constructeurs, de ceux qui édifient, des facilitateurs, nous pourrions dire, de vie spirituelle, donc des constructeurs, des bâtisseurs enthousiastes, et de ne jeter à jamais, de rejeter à jamais le doute, et en effet de le répandre, parce que nous sommes aussi eh bien capables de répandre le doute. Vous savez que c'est une œuvre du diable dès le commencement. Quand le serpent s'est présenté à Ève, il a instillé dans l'esprit de Ève, ensuite il va être contaminant, puisque Adam eh bien, va suivre le même raisonnement, quand il dira ceci, « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors, Dieu a dit, et nous avons du mal à croire ce qu'il a dit. Et parce que nous sommes environnés d'un brouillard, de la brume, de toutes sortes de ténèbres que nous entretenons. Souvent nous nous plaignons, et c'est vrai que des conséquences, eh bien là, de toutes nos mésaventures, de toutes nos souffrances, de nos peines, mais quelquefois nous nous en plaignons, nous pleurons sur ces choses, mais peut-être nous pouvons réfléchir que là où nous nous plaignons, c'est nous qui chérissons aussi les causes de ce qui nous a amené finalement à pleurer. Alors, nous avons à jeter loin de nous, tout simplement, eh bien là, cet état d'esprit, et il faut en prendre conscience, en demandant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais crée en moi, donne-moi, Seigneur, eh bien, de bonnes dispositions, donne-moi de voir ce que je dois voir au lieu de m'enfermer dans un labyrinthe dont je ne peux pas sortir. Et je pense que ça préservera aussi les autres personnes, et nous allons pas nous perdre à des considérations qui n'en finissent pas, à des raisonnements qui n'en finissent pas, des raisonnements qui n'ont pas de fondement et qui ne servent à rien. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Et à cela se mêle naturellement et bien la culpabilité et toutes sortes de choses qui sont véritablement pour empoisonner notre vie, qui deviennent toxiques. Alors le plus important, c'est de demeurer dans la foi. C'est de demeurer dans cette confiance, c'est de demander à Dieu qu'il nous donne, eh bien, plus de foi. Et un jour, les disciples, eh bien, là, l'ont demandé à Jésus, ils l'ont, eh bien, le sollicité, la foi, et qui s'exprime, et qui se demande dans la prière. Augmente-nous la foi, augmente-nous cette capacité de pouvoir voir le ciel ouvert, en quelque sorte. Donc, demeurer dans la foi, et de croire encore. Eh bien là, aux vertus infinies de la grâce. Il faut ajouter, il faut mettre ensemble la foi et la grâce. Ce n'est pas s'enfermer dans une loi, même si finalement cette loi eh bien, fait partie des pages de la Bible, mais il y a des pages beaucoup plus positives qui sont celles eh bien là, de la grâce et de la faveur de Dieu. Et ces paroles de grâce, eh bien, elles sont exprimées par ce métayer qui dira au maître « Laisse-le encore, s'il te plaît. Donne-lui encore sa chance, on pourrait le traduire de cette manière. Laisse-le encore cette année. On verra l'année prochaine. Peut-être que les choses seront différentes. » Et dans cette espérance, voilà, cette espérance qui fait vivre, parce que Il dit, mais moi je vais mettre du fumier, je vais engraisser la terre, je vais soigner particulièrement ce figuier, je vais en prendre soin, je vais le tailler, enfin je ne sais pas quels sont les soins que l'on donne à ce genre d'arbuste, mais toujours est-il que, nous voyons, et c'est l'image de Jésus ce métayer. Hein, on a parlé que le propriétaire c'était l'image de Dieu, mais ce métayer c'est l'image de Jésus qui prend soin de ses créatures, qui prend soin des pécheurs, qui prend soin de ceux qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent plus vivre, qui sont là, et bien là complètement dévorés par, intérieurement, par toutes sortes, ils sont viciés, ils sont tordus on pourrait dire, ils sont malades, malades physiquement mais malades également moralement. Alors c'est cette image de Jésus qui s'approche de nous à travers son message de l'évangile, qui nous fait des promesses comme si c'était des médicaments en quelque sorte, comme si c'était des pansements que nous devons prendre et suivre, et qui fait que, eh bien, là, Jésus s'approche de nous et s'adresse aussi à vous aujourd'hui, dans vos perturbations, dans vos maladies, dans peut-être vos anxiétés qui, quelque part, vous fait voir tout en noir. Alors, à ce moment-là, il vient et puis il dit ceci, eh bien, à l'avenir, dans cette espérance, eh bien, à l'avenir, parce que je vais le soigner, parce que je vais le penser, parce que je vais améliorer ses conditions pour qu'il puisse être productif, qu'il puisse être fécond, eh bien donnera-t-il du fruit. Et c'est ça justement, en quelque sorte, nous touchons les réalités de la conversion. Nous touchons les réalités de la nouvelle naissance, d'une greffe en quelque sorte, comme il nous en est parlé également, hein, où il est question de l'olivier qui est greffé, hein, l'olivier là franc et l'olivier sauvage. Eh bien c'est la même chose, la vie spirituelle, la découverte de la vie spirituelle, la venue de la foi, hein, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, eh bien c'est un traitement tout cela. Et nous voyons que quelque part, eh bien, il se passe véritablement de grandes choses et qui amènent les hommes, eh bien, à se repentir de leurs péchés. Ça, c'est la porte d'entrée qui s'amène, qui nous conduit, eh bien, là, tout simplement à accepter Jésus comme notre sauveur et à naître de nouveau, à devenir une nouvelle créature. Ce qui fera dire que le figuier était une ancienne créature, il est devenu une nouvelle créature en portant du fruit, si l'on pense que les choses sont ainsi. Mais c'est pareil pour un homme en quelque sorte. Et je terminerai sur cette dernière parole du psaume 126, qui est certainement une des plus belles citations de la Bible. Vous la connaissez certainement, mais elle est extraordinaire et formidable. Moi, je l'aime particulièrement. Il est dit ceci, et c'est toujours dans vue de ce cadre, de ce schéma de la vie, de la nature, de la vie agricole. Il est dit ceci, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse, avec des chants d'allégresse. Et ça, c'est un encouragement extraordinaire que Dieu nous adresse, que la parole de Dieu que nous entendons ce matin, eh bien, nous adresse, elle est à notre destination pour tous ceux qui s'aiment, et qui s'aiment péniblement, qui s'aiment dans leur champ de vie, qui s'aiment autour d'eux, qui s'aiment parce qu'ils ont véritablement, eh bien, de grandes difficultés, peut-être dans leur vie familiale, propre, personnelle, dans leur vie sociale, dans leur vie économique, d'une manière ou d'une autre, qui s'aiment difficilement pour acquérir la guérison, pour atteindre la guérison. Alors, ils s'aiment avec larmes, ils pleurent, mais il ne faut pas se décourager, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, et qui est en train de préparer la suite. Alors les larmes, eh bien, la promesse qui est faite, c'est qu'ils moissonneront avec des chants d'allégresse. Nous avons tous passé par des hauts et des bas dans la vie. Nous avons tous connu des déboires. Nous avons connu aussi, eh bien là, des déceptions, des trahisons, d'une manière ou d'une autre, des douleurs, des souffrances dans nos corps. Psychologiquement également, nous avons parfois été dévastés par toutes sortes de circonstances. Mais il nous est dit, et ça c'est Dieu qui le dit, parce qu'il fait la promesse, ils viennent, ils marchent dans les larmes, mais ils moissonneront avec des chants d'allégresse. C'est qu'à un moment donné, les choses vont changer. Et c'est pour ça qu'il faut rester positif. C'est pour ça qu'il faut rester, eh bien là, dans l'enthousiasme. Et vous savez que le mot enthousiasme, ça veut dire Dieu en soi. Et Dieu est un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu de force, un Dieu de renouvellement. Alors ils viendront, ils chanteront des chants d'allégresse que nous pourrons chanter à la gloire de Dieu. Nous pourrons chanter des cantiques pour sa délivrance. Et celui qui marche en pleurant, parce que les marches, quelquefois, sont difficiles. Elles sont pénible. Il y a là quelquefois des montagnes à gravir. Il y a toutes sortes de choses qui sont particulièrement, éprouvantes. Alors celui qui marche en pleurant, il s'agit, là tout à l'heure c'était au pluriel, maintenant c'est au singulier, c'est peut-être beaucoup plus directif, beaucoup plus indicatif de ce que nous sommes à titre personnel. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, parce que c'est difficile, finalement, d'être le semeur. Il est sur un terrain, il a été dépierré, il a été labouré, il y a des sillons qui ont été faits, et puis il dépose sa semence, il va l'abandonner à la terre. Ça, c'est l'image de la foi, c'est l'image de la confiance. Et le semeur ne va pas revenir tous les jours pour voir si ça pousse. Il va tout simplement abandonner tout ça à la terre, et avec le temps. Et avec le temps, qui est non pas notre ennemi, mais notre ami, il reviendra. Avec véritablement une grande joie, quand il reviendra et en portant ses gerbes, quand il portera les résultats de ce travail. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et en effet, la question, mais quel est votre caractère, quel est votre tempérament? Êtes-vous positif ou négatif? Dieu est capable de changer l'état de nos âmes, l'état d'esprit, l'état de nos pensées, et ainsi de nous donner de regarder toujours du bon côté, c'est-à-dire devant, de regarder à lui, les yeux fixés sur la personne de Jésus, et de nous appuyer sur ses promesses, parce que ses promesses, elles sont oui et amen, c'est ce que nous dit la Bible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa grâce et courage. La délivrance, vient, la délivrance approche, elle n'est pas si loin que vous ne le pensez. Si vous ne la voyez pas encore, Dieu la voit et il vous prépare à la recevoir.